De retour à Allo Showbiz, la belle visite aujourd'hui, première fois à l'émission. Emma Pompa. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit?
C'est M Pompa.
En M fait, Pompa, excuse.
En fait, mon nom, c'est Émilie. Émilie.
M Pompa.
C'est drôle parce que t'es pas le premier qui m'appelle Emma. En fait, je me suis dit que M, ça serait un beau nom d'artiste. Je me suis dit, je vais l'essayer. Puis finalement, tout le monde m'appelle Emma. Fait que ça marche pas vraiment mon affaire.
Émilie Pompa, oui, voilà. De Bellflower. Yes. Nouvel album qui a été lancé il y a quelques temps déjà. Troisième album de ce projet-là.
Oui, tout à fait.
Qui est un projet assez chargé parce que vous êtes beaucoup de monde.
Oh oui.
Et pour toi, c'était pas assez encore.
Non.
C'est un band de 8. Vous êtes 8.
Un band de 8, on est 8 musiciens.
Et là, sur ce disque-là, vous êtes 15.
Oui, il y a 15 musiciens sur cet album-ci. Écoute, c'est drôle parce que ma gérante, elle me dit tout le temps, hey, « Toi, ma mégalomane, là, on se calme. » Mais...
Surtout qu'on est dans une ère où dans la musique, on part en tournée acoustique parce que ça coûte cher puis on veut pas payer des gros bands.
Oh, ouais, tout à fait.
8, là, ça devient quelque chose.
Ouais, c'est quelque chose, mais écoute, on a tellement de plaisir puis je veux dire, on veut pas rien compromettre ou changer. T'sais, Bellflower, c'est les 8 musiciens. C'est comme ça que ça sonne super bien. Puis justement, en spectacle, les gens, ils nous disent à quel point ils ont apprécié puis à quel point ils trouvent ça impressionnant qu'on soit si nombreux.
Ah oui,
donc, écoute, c'est vraiment pour ça qu'on reste les 8 en tournée. Puis écoute, pour le troisième album, justement, je me suis dit, on y va all out. On fait des arrangements orchestraux, des arrangements que j'ai faits avec un ami à moi, tromboniste et contrebassiste,
Olivier
Hébert. Exact. Puis il joue, en fait, sur l'album aussi. Puis écoute, j'avais vraiment envie de quoi? De plus grand, vraiment pousser la recherche sonore un peu plus, là. Donc vraiment d'y aller plus dans les arrangements orchestraux, là, c'était un must pour celui-ci.
Mais c'est comment qu'on l'entend, le résultat? Parce que c'est beau d'y penser, de l'imaginer.
Oui, oui, oui.
Mais une fois que ça sort, puis ça, qu'on l'entend pour la première fois, c'est comment?
C'est incroyable. J'étais tellement contente de ça. Puis comme tu dis, oui, on l'entend, tu l'imagines. Puis écoute, juste de l'entendre pour vrai, là, ça, j'étais complètement satisfaite. Puis c'était de le jouer aussi, en fait, notre lancement à Montréal.
Étaient tous là. C'était pas 8.
Là, on était 14. Puis écoute, c'était tellement fantastique comme expérience. Juste d'être soutenu par tous ces musiciens-là, c'était complètement dingue. Là, moi, j'avais l'impression d'être une roche sur laquelle un genre de tsunami frappait. Là. C'était vraiment fabuleux. Puis, tu sais, pourtant, c'est pas un orchestre symphonique. Là.
Non.
C'était vraiment une section de cordes et cuivres. Fait que ça m'a comme donné envie de penser plus gros aussi. Puis peut-être faire ça éventuellement en version orchestre symphonique. Mais bon, c'est pas dans les plans.
Mais ça se peut, oui. Ouais, ça se peut.
Ça se pourrait. On sait jamais.
C'est un nouveau rêve, donc, auquel que tu pensais peut-être pas avant,
j'imagine. Ouais, exact. On a décidé de commencer soft, juste des petits arrangements, tout ça. Ben, c'est pas, ouais, mais pour moi, c'est soft. Mais non, c'est ça, ça m'a vraiment donné l'envie là, d'essayer ça éventuellement avec un gros orchestre. Là, ça serait un beau rêve qui se réaliserait. Là.
C'est toi qui écris les chansons du projet. Généralement, tu t'inspirais de ta vie à toi. Tu as décidé de sortir un peu de ta vie, d'aller t'inspirer des gens autour de toi, ou en tout cas de ce que tu entends comme histoire autour de toi.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est libérateur de sortir un peu de soi et d'aller puiser ailleurs?
Oui, parce que justement, ça me faisait... En fait, je me mettais vraiment dans la peau des autres personnes sur sur lesquelles j'écrivais, tu sais. Donc, ça a été un exercice vraiment, vraiment bien. Aussi moins, je veux dire, self-centered, là, mais tu sais, c'est ça, j'avais vraiment envie de moins parler de moi parce que les deux premiers albums, c'était ça, tu sais. Quand on commence, on parle de nous, qu'est-ce qu'on vit, tout ça. Donc, ouais, vraiment, j'ai vraiment décidé de m'ouvrir les yeux un peu plus, puis ça m'a fait réaliser que tout le monde autour de moi, tout le monde rush à un certain point dans sa vie, tout le monde vit des épreuves différentes. Donc, ça a été de la bonne matière, en fait, pour moi, pour écrire des histoires, justement.
J'ai l'impression qu'il y a une thématique qui s'est comme installée au fil de l'écriture, parce que en gros, on parle des hauts, mais ça prend le faut pogner le bas avant d'arriver en haut.
Oh, oui, ça, c'est sûr. Là. Écoute, le concept de l'album tourne beaucoup autour de la dualité. Justement, la vie, pour moi, c'est pas un chemin en ligne droite.
Non,
ça se peut pas. Là. Puis pour tout le monde aussi.
Ça serait plate en même
temps. Ça serait plate en tabarouette. Donc, écoute, comme tu dis, il n'y a pas d'eau sans bas, il n'y a pas de renouvellement sans destruction non plus. Donc, c'est important de prendre des risques, je pense, dans la vie, puis on en prend tous à un certain niveau. Ça vient avec de la peur, ça vient avec de l'angoisse, mais c'est complètement normal, en fait. Il faut juste être capable d'accepter ces sentiments-là, puis de faire du mieux qu'on peut avec. Donc, c'est ça le... D'où vient le titre « Upside Down », en fait. « Upside Down », c'est comme le moment critique où, justement, tout semble brûler, tout semble être mêlé à l'envers, puis c'est là où on a le choix de on peut choisir notre chemin, en fait. Soit qu'on reste dans notre sentiment de peur puis qu'on n'avance pas, ou qu'on le twist puis qu'on devient plus fort, en fait. Puis je crois sincèrement que c'est ce qui nous fait évoluer, en fait.
Et « Upside Down », c'est inspiré d'un de tes amis?
Oui.
Qui vivait un bout de pas le fun?
Oui, tout à fait. On était au chalet, en fait, chalet de mes parents, puis il y avait vraiment, vraiment de la misère, passait à travers une épreuve quand même assez difficile. Donc, je me suis dit, ben gars, on jam, puis je vais écrire une pièce là-dessus, tu sais, puis c'est devenu...
Il savait là, que tu allais faire ça.
Oui, oui, tout à fait, on en parlait, là, puis j'étais comme, gars, on va écrire une pièce là-dessus, ça va être super libérateur pour toi, pour moi aussi, puis tu sais, j'ai vraiment eu l'impression de l'aider aussi, tu sais, la musique, c'est assez puissant, là.
T'es thérapeutique, en tout cas.
Oui, oui, tout à fait, puis écoute, c'était vraiment magnifique, on s'est inspiré de lui, en fait. Moi, justement, j'ai essayé de me mettre dans sa peau, de ressentir tout ça. Puis écoute, avec les... Je me souviens, en fait, c'est tout vitré, en fait, c'est une super belle place, puis vue sur le lac, puis cette journée-là, c'était tellement brumeux, en fait, on voyait presque rien, fait que c'était comme un peu son état d'âme qui reflétait par rapport
Donc, à ça. Donc ça inspirait, ça ajoutait l'inspiration
de la chanson. Oui, tout à fait, là.
Est-ce que d'écrire sur les autres, ça nous fait parler de nous en même temps? Parce que c'est notre regard un peu, en même temps, sur même si on se met dans la peau des autres, ça finit par être notre regard.
Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est pas... Il y a rien qui a été mis dans le jugement, là, mettons, là, tu sais. Mais oui, ça me... Justement, de te mettre dans la peau de l'autre personne, tu as le regard extérieur, oui, mais aussi, pour moi, c'était vraiment important de me mettre dans leur situation puis d'essayer d'écrire... pas au jeu, là, tu sais.
Oui. Ouais. L'album a été enregistré en studio, mais aussi dans un chalet.
Oui.
Laurentides.
Oui, à ce chalet-là, en fait, c'est à Lantier, proche de Saint-Donat. C'est le chalet familial, en fait. Donc, vraiment un endroit fantastique, super inspirant. Pour moi, c'est vraiment important, justement, d'essayer de changer de lieu de composition, parce que ça peut être vraiment redondant puis long, justement, là, tout le temps être à la maison. Donc, vraiment, vraiment privilégié d'avoir accès à ce beau chalet, ce bel endroit pour écrire ça. Puis c'est le fun parce que ça nous a permis de déplacer un peu le studio. Au chalet, justement, c'était dans le sous-sol, tout en bois avec des gros tapis. Donc, il y a deux pièces qu'on a enregistrées là. Ça sonne super feutré. Ça donne vraiment une belle texture sonore, là.
Et est-ce que quand on se déplace dans un lieu comme ça, qui n'est pas un studio avec un meter, est-ce que ça permet d'essayer des choses, de dire, OK, cette chanson-là, ben on peut l'amener... Est-ce qu'on irait jusque-là voir qu'est-ce que ça donne, puis quitte à ramener après?
Oui, absolument. On est là pour essayer des choses, puis justement de s'adapter au lieu pour enregistrer. C'est sûr qu'on amenait plein de matériel là, pour avoir la possibilité d'essayer plein de trucs.
Ben oui,
mais c'était vraiment... Tu t'adaptes, puis des fois, il y a des trucs qui ressortent que tu te dis « Ah, j'aurais jamais pensé à ça, là, tu sais ».
Quand l'album sort, évidemment, c'est tout le travail qu'on a mis là-dessus, mais est-ce qu'il y a une fébrilité, une nervosité, là, ça finit par arriver?
Énorme fébrilité. Ben, pour moi, personnellement, là, les artistes, tout le monde dit qu'ils sont super émotifs et tout ça. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un de très émotif dans la vie. C'est pas pour rien que j'écris la musique et tout ça. Mais écoute, c'est vraiment... C'est un beau moment, mais en même temps, ça vient avec beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, parce que tu veux tellement... Tu veux tellement partager sur quoi tu as travaillé pendant si longtemps, puis tu veux quand même que les gens aiment ça. T'sais, oui, je fais la musique pour moi, mais aussi pour les autres. Fait que c'est sûr qu'on espère toujours avoir une bonne réponse. T'sais. Puis finalement, mais ça a super bien marché. Écoute, on a eu des très, très beaux commentaires. La réponse a été très forte, les critiques aussi. Mais écoute, comme on disait tantôt, il n'y a pas de haut sans bas. Fait que ça vient avec de la fébrilité, de la nervosité, mais ça fait partie de la game.
En processus d'écriture, est-ce que tu es dur avec toi-même? Est-ce que tu es ta pire critique? Il y en a beaucoup qui sont comme ça.
Pas pendant le processus d'écriture. Je dirais plus pendant
l'enregistrement.
Le recording. Ouais. Ça, je suis toujours un petit peu plus picky. Plus par rapport à ma voix, en fait. Souvent, là, j'aime vraiment ça, avoir le temps de comme... bien faire les choses, bien chanter. Puis souvent, je me dis, ah non, ça m'énerve, cette petite fin. Tu sais, mais ça fait partie du studio. Le studio, c'est quelque chose de très difficile. Il faut vraiment être...
C'est un exercice de lâcher prise
immense. Oh oui, complètement. Là,
parce qu'il ne sera jamais parfait.
Non.
Ça ne se peut pas, de toute façon.
Non, ça, c'est certain. Il faut que ça soit organique aussi. Il faut que ça soit humain, c'est certain. Mais dans le processus d'écriture, en fait, je suis pas très difficile envers moi-même. Justement, j'essaye plein de trucs. Puis je me dis, écoute, si c'est pas bon, c'est pas bon, puis on s'en fout, tu sais. Mais non, je suis quand même assez soft avec moi-même pour l'écriture.
Est-ce qu'on pense à la scène quand on est à l'écriture? Est-ce qu'on se dit, oui, OK, ça, je le vois sur scène, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Des fois, en fait, c'est plus venu vers la fin. Plus quand que j'entendais vraiment qu'est-ce qu'on avait enregistré. Là, je m'imaginais vraiment là, comme tout était mis en place, tout était enregistré, puis là, je m'imaginais qu'on jouait tout ça on stage. Puis... Mais c'est sûr qu'il y a des moments, en fait, pendant l'écriture que tu te dis... T'sais, comme je disais tantôt, je suis une mégalomane, fait que je rajoute tout le temps des instruments, des percussions. Avec Will aussi, t'sais, on rajoute tout le temps des gogos, puis je me dis, oh non, on en met plus, puis on se dit, ah ben là, comment on va faire ça en live? OK, là, Jérôme, va falloir qu'il soit la pieuvre, qu'il ait comme 3-4 claviers. Fait que oui, je projette quand même ça dans le live, mais plus pour côté pratique, t'sais, pour dire, est-ce qu'on peut faire ça live?
Mais il y a des tonnes qui peuvent être juste des tonnes d'albums aussi, ça se peut, ça. Il y en a qui font ça.
C'est vrai. Mais écoute, moi, j'aime tellement. C'est sûr. Il y a des gens qui aiment pas trop ça, faire des spectacles, mais moi, c'est comme un peu mon. C'est comme le bonbon, là.
D'ailleurs, ça t'a manqué en étape de création. Je lisais des entrevues où tu disais que ça a été difficile, ce bout-là.
Oui, ça a été quand même difficile parce que, écoute, j'ai travaillé beaucoup de la maison, oui, au chalet aussi, mais j'étais tellement dedans, là. J'étais dedans à 150%, puis quand tu as tout le temps le nez dedans, tu. C'est pas nécessairement bon non plus. T'sais. Oui, c'est bien de se consacrer longtemps et fort à quelque chose. Mais écoute, ça a été quand même un long processus. Ça a été une retraite quand même agréable, mais nécessaire aussi, parce que j'étais vraiment rendue ailleurs. T'sais, j'avais vraiment envie de me renouveler en tant qu'artiste, en tant que personne aussi. Mais c'est sûr que vers la fin, là, j'avais hâte en tabarouette de jouer avec ma belle famille, parce que... Non, c'est comme je disais, quand t'es sur scène, c'est un des meilleurs feelings au monde.
Quand on arrive au Centre Phi, là où a eu lieu le lancement, mm-hmm. c'est là que les chansons prennent vie aussi. C'est là qu'on les joue pour la première fois pour la plupart.
Mm-hmm.
Est-ce que ça fait du bien quand on a le retour des gens qui sont dans la salle?
C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis écoute, ces pièces-là, on avait fait une résidence en fait à Val-Morin. Ils nous aiment beaucoup là-bas, puis nous, on les adore. Donc, on a eu la chance vraiment de jouer ces pièces-là dans une très belle salle de spectacle. Il n'y avait pas de public, par contre. Fait que c'était vraiment résidence pour monter les shows. Okay. Puis après,
une pré-prod de show, finalement?
Exactement. Parce que justement, en juillet, ça, c'était en mai dernier. Puis en juillet, on faisait une tournée en Colombie-Britannique parce qu'on essaie de faire ça à chaque année parce qu'ils nous aiment beaucoup, eux aussi, là-bas. Puis c'est toujours le fun, ouais. Fait qu'on s'est dit, hey, on casse les tunes là-bas. Puis ça a été vraiment fabuleux. Le premier show qu'on a fait, c'était dans un festival sur Main Island. C'était le Campbell Bay Festival.
Okay.
Gros festival. Là. C'est dans un grand champ. C'est vraiment un festival de hippies, là, si je peux me permettre de dire ça. Puis écoute, il y avait à peu près 200 personnes. La réponse était magnifique. Là. Les gens, ça criait, puis ils ne connaissaient même pas. T'sais. Fait que ça a vraiment été un beau baptême pour casser les nouvelles pièces, là. Mais au Centre Phi, ça a été une super belle soirée. C'était vraiment spécial parce que c'était à la maison, tu sais.
Ouais.
On vient de Montréal, on vient d'ici.
Mais vous faites beaucoup de choses à l'extérieur, c'est ça, ouais.
Oui, c'est ça, tout à fait. Notre musique est quand même assez exportable aussi, là. Fait que on vise aussi sortir de chez nous un peu, là.
Les influences ratissent large dans Bellflower. Mm-hmm. Vous touchez à plein d'univers, plein de sons. Ça vient de tout le monde. À force d'avoir un band à 8...
Mm-hmm.
Tout le monde ne vient pas du même background, tout le monde n'a pas les mêmes influences, tout le monde n'a pas grandi avec la même musique. Ça vient de là, j'imagine, c'est d'aller chercher un peu partout.
Complètement, en fait. Mais on vient tous un peu du milieu jazz, en fait. C'est là où j'ai rencontré la majorité du band. On étudiait à l'Université de Montréal en interprétation. Puis, donc oui, on a tous quand même un background jazz, mais... On écoute tous beaucoup, beaucoup de musique, puis beaucoup, beaucoup de musique différente. Donc, à chaque fois qu'on est en tournée, ben là, c'est let's go, on se fait des playlists.
C'est quoi vos découvertes?
Ça, tu sais. Fait que les membres du MAN me font beaucoup, beaucoup découvrir de nouvelles musiques, en fait. Puis, c'est dans le playing aussi. Là. Souvent, quand j'amène une composition, je leur laisse des parties un peu pour qu'ils interprètent une certaine section avec toujours un genre de guideline, mais c'est là où toutes les influences de tout le monde sont toutes inclus dans leur comment ils jouent leur instrument. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est un gros melting pot là, de plein d'influences.
Un band, c'est des compromis. Mais d'habitude, un band, c'est 4 personnes.
D'habitude.
Là, c'est le double.
Ouais.
Est-ce que ça fait des discussions plus longues avant d'en arriver à une entente sur « OK, oui, on fait ça »
Des fois, oui. Mais écoute, moi, je pense que c'est quand même assez enrichissant d'être entouré de autant de bons musiciens, en fait. C'est sûr que quand tu es plus de tête, ça vient avec plus d'idées, plus de... Des fois, on s'entend pas tous sur la même,
Alors,
sur la même affaire. Là. Côté compo, je suis quand même celle qui a quand même le dernier mot avec William aussi.
Okay.
Quand j'amène des pièces, justement, j'amène vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. Là, c'est quand même, la pièce est quand même là, est faite. C'est sûr que toutes les idées sont retenues, sont essayées. C'est là où Bellflower devient Bellflower, parce qu'ils incluent un peu leur plein, leurs idées et tout ça.
Ah, oui.
C'est sûr que ça vient avec des compromis, mais moi, je trouve que c'est, comme je disais, c'est enrichissant. Puis ça te fait aussi un peu moins penser à toi-même, tu sais. Tu t'ouvres un peu plus aux autres, tu essaies d'écouter tout le monde, puis d'être un peu la... Ces temps-ci, j'essaie d'être un petit peu plus la comment on dit ça, la médiatrice un peu, là, okay. Quand il y a des petits...
des petits conflits.
Ouais, des petits conflits. Tu sais, avant, je pensais beaucoup, beaucoup juste à moi-même, puis justement, j'ai réalisé que non, il faut vraiment que je pense aux autres, parce qu'ils sont ici avec moi aussi, là, tu sais. Mais moi, j'adore qu'on soit les 8 comme ça, là.
C'est né comment, Bellflower?
Bellflower, c'est né en 2012, je dirais. C'est tout de suite en sortant de l'université. Moi, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fonde un band, en fait. Puis même mon prof à l'université, il me disait, j'amenais des compos. T'sais. Il me disait, non, tu vas faire un standard à ton examen. Puis j'étais comme, non, je veux amener ma composition. Fait que j'étais quand même un peu...
Rebelle.
Rebelle, mais peut-être stubborn, je sais pas comment on dit okay. En français, là, mais peut-être dur un peu. Ouais, un petit peu, là. Fait que non, c'est ça. Puis à l'intérieur du cadre scolaire, on a commencé à jouer ensemble, justement, avec les membres de Bellflower. Puis ça a cliqué tout de suite amicalement, évidemment, mais musicalement aussi. Fait que je me suis dit, avec pendant 4 ans, de jouer un peu avec tout le monde, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fonde un band. Fait que j'ai commencé à composer chez nous, avec William aussi, qui m'aidait beaucoup, beaucoup pour les arrangements. Pour le premier album aussi, il y a Félix Petit qui s'est joint en nous. Fait que ça a vraiment été ça, le premier cœur, genre le core de Bellflower. C'était nous trois. Puis on s'est dit, hey, il faut qu'on... On demande à Nico, on demande à Kat, on demande à Alex, let's go, on monte un gros band, on le fait, t'sais.
Et est-ce que tout le monde a dit oui tout de suite?
Oui.
Parce qu'ils sortaient tous de l'école, donc en même temps, vous avez tous gradué presque en même temps.
Oui, peut-être à peu près une année ou deux de différence, là, selon certains membres, mais ils ont tous sauté à pieds joints, puis ils étaient tous super contents. Puis on était tous des super, super bons amis, fait que ça s'est fait naturellement, en fait.
C'était quoi ton objectif quand tu t'es inscrit en interprétation de jazz? Est-ce que c'était ça, d'avoir un jour un band, ou tu te dirigeais en disant, ben, j'aurai une carrière solo?
Je pense que j'ai toujours pensé à avoir un band, parce que tous les groupes qui m'ont vraiment fait triper, c'était vraiment des c'était pas vraiment solo, là. C'était pas mal des bands, des groupes. Écoute, je pense que je suis rentrée à l'école, en fait, parce que je savais pas, en musique, parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'avais essayé plein de trucs. Avant, dans une vie antérieure, mettons.
Okay.
J'ai fait genre 3 cégeps. J'ai étudié en arts plastiques, ce qui m'a vraiment fait triper. C'est là où je me suis dit, OK, je suis dans le bon...
Ça va être les arts.
Ça va être les arts. Je suis dans le domaine des arts, c'est cool. Puis, tu sais, je jouais beaucoup de musique, juste pour le plaisir, là, avec un ami à moi. Puis il m'a dit, j'étais dans un moment dans ma vie où je faisais juste travailler, puis je me disais, c'est plate, je sais pas quoi faire, je m'épanouis pas. Puis il dit, ben, essaye de rentrer à l'école en musique. T'es bonne, là, tu chantes bien, tu joues un peu de git, essaye ça, peut-être que ça va t'ouvrir des portes. Et puis justement, ce fut fantastique.
Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ça devienne ta vie? Il y a un déclencheur, là. Il y en a beaucoup que c'est leur rêve de jeunesse. Toi, c'est clairement pas ça, là, de ce que je comprends.
Non, c'est vraiment venu plus tard. Je pense que c'est vraiment quand je me suis mise à écrire, à composer. Puis ça a vraiment été plus à l'université. Au cégep, c'était vraiment plus, bon, apprendre comment chanter, la technique, le solfège. Donc vraiment, tout ce qui est musical, le compo, tout ça, la théorie, mettons. Puis là, à l'université, j'ai appris plus à intégrer ça dans mon playing, justement, en chantant. Puis c'est là où, justement, en découvrant ces musiciens-là, puis en jouant, c'était comme des groupes de combos qu'on avait. Donc, il y avait comme plein de gens d'interprétation de leurs instruments respectifs qui étaient joints ensemble pour jouer. Puis j'ai fait, aïe, j'aime vraiment trop ça, c'est le fun. Puis j'ai commencé à composer. Puis c'est là où c'est devenu aussi super plaisant. Puis ça a été comme une piqûre. Là. Je me suis dit, il faut que je fasse ça dans la vie. Hein.
Est-ce que c'était libérateur pour toi, les premières fois que tu écrivais des trucs?
Ouais, vraiment. Puis c'était...
Parce qu'on le disait tout à l'heure, les premières chansons, ça parlait de toi. Ouais. Il y avait un exutoire là-dedans.
Ouais, vraiment. Puis ça a été fantastique. Ça a été très, très libérateur. Je gardais ça pas mal juste chez nous. Là, c'était pas des pièces que je sortais.
Tu les présentais pas aux autres.
Je les présentais pas aux autres. Je gardais ça chez moi. Ça me faisait vraiment du bien, mais je me suis dit, le next step, il faut les jouer. Faut que je les joue avec du monde. Il faut que ça prenne vie, là.
Le nom du band vient d'un film, non?
Oui, un excellent film. Je le conseille à tout le monde. C'est drôle parce que William et moi, on avait écouté ce film-là, v'là quoi? C'était avant, là. C'était juste quand il fallait qu'on trouve un nom de band. Puis on l'a réécouté v'là un mois aussi. Ça faisait quoi? 6 ans qu'on ne l'avait pas réécouté. Puis c'est tellement bon. Puis c'est même meilleur la deuxième fois parce que tu comprends plus d'affaires, tu vois plus de choses. Ouais. Écoute, c'est un film assez particulier. Ça se passe à Bellflower, justement, qui est une ville en Californie. Puis c'est une genre de psychose d'un jeune homme. Écoute, c'est vraiment noir, c'est trash, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis je me suis dit, comment quelque chose d'aussi laid peut avoir un si beau nom? Puis tu sais, je me suis pas cassé la tête non plus, là. Essayer de trouver un nom de band, c'est tellement difficile.
Oui.
Donc, c'est ça.
Il y en a beaucoup de prix.
Oui, il y en a beaucoup de prix. Fait que je me suis dit, on y va avec ça, ça sonne bien, c'est chantant. On y va avec Bellflower.
Mais c'est une ville qui existe, donc oui. Bellflower. Est-ce que Bellflower pourrait jouer à Bellflower? Est-ce que ce serait un kick?
J'aimerais vraiment ça. Ben oui, parce que c'est parti de là, tu sais. J'aimerais vraiment ça. Je sais pas, en fait, s'il y a des salles de spectacle. C'est quand même une petite ville. Mais écoute, juste de passer par là, ce serait quand même un beau petit trip, là.
Comme c'est en anglais, est-ce que rapidement le souhait c'était de voyager avec sa musique? Parce qu'il n'y a pas de frontières, on peut aller partout.
Ouais,
donc
absolument.
En français aussi, mais...
Ouais, ben c'est plus tricky, mettons, pour nous ici.
Ça marche plus ailleurs?
Ben, c'est dur à dire. C'est sûr que là, on a commencé par tourner ici parce que c'est notre beau Québec, on vient d'ici, puis c'est super important.
C'est plus pratique aussi.
C'est un peu plus pratique, oui, tout à fait. Mais souvent, il y a des gens qui disent « Pourquoi pas en français? Tu sais, tu viens d'ici, puis tout ça. » Écoute, moi, ça a été naturel pour moi d'écrire les paroles en anglais parce que je viens d'un milieu un peu plus anglophone. Okay. J'ai grandi dans le West Island, puis je suis allée à l'école en français, sauf que ce qui jouait chez nous, la musique, mon père écoutait beaucoup les grandes chanteuses de jazz, comme Etta James, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, beaucoup de musique américaine aussi. Je pensais à quoi, il y avait du Phil Collins qui jouait, il y avait du Sting énormément. Mon père, grand, grand fan de Gino Vanelli. Donc, ça a été vraiment, vraiment de l'anglais pour moi. Puis quand j'ai commencé plus à m'intéresser à la musique, puis à aller écouter des trucs par moi-même, c'était encore une fois là, Whitney Houston, tous les genres de chanteuses, puis les chanteurs anglophones. À l'école aussi, on nous apprend justement en interprétation, en chant jazz, on apprend les standards de jazz classique américain. C'est sûr qu'il y a des sections sur, mettons, musique québécoise et tout ça, ça me faisait un peu moins triper. Parce que je connaissais pas ça vraiment. Donc, ça a été vraiment naturel pour moi d'écrire en anglais. Puis c'était pas dans le but de voyager ou quoi que ce soit. Comme je disais, c'est venu facilement, c'est ce que je connaissais. Plus facile pour moi de m'exprimer en anglais qu'en français quand vient le temps d'écrire des paroles, tu sais. C'est bien en même temps parce que oui, c'est exportable. Puis écoute, on peut vraiment, je veux dire, conquérir le monde. Mais...
Ouais,
voilà.
Mais même donc, si c'était pas un rêve de jeunesse, serait-ce que ce que ton père écoutait, ça t'a vraiment teinté musicalement?
Vraiment. Je viens d'une famille
jazz,
musicale.
T'as étudié en jazz.
Ouais, puis écoute,
tout ce qui est Colin Sting, c'est de l'orchestration.
Ouais,
un peu
musique
ça.
Prog, un peu. Oui, c'est sûr que c'est pas parti de nulle part. Puis écoute, ma grand-mère, elle était, du côté de mon père, en fait, elle était chanteuse de jazz dans les années 50.
OK.
À Montréal, justement, elle allait aux États-Unis aussi. Mon père, il a joué de la batterie jeune. Il il s'était parti un groupe avec, avec ses amis, là, justement dans le sous-sol, chez mon grand-papa, chez son père. Donc, moi, j'ai vraiment hérité du côté musical là, des pom-pom, mettons.
Donc, il y avait un bassin qui était
là. Ouais. Il était là, mais je ne l'ai pas... je suis pas rentrée dedans dès le début. Là. Il fallait vraiment que j'essaye d'autres choses, justement, pour être certaine de vraiment vouloir faire ça.
Tu as dit que l'objectif n'était pas tant de voyager, mais quand ça fonctionne bien, par exemple, tu disais tout à l'heure, en Colombie-Britannique, est-ce que ça devient donc une surprise quand ça arrive? Parce qu'évidemment, vous autres, vous êtes ici, donc c'est pas nécessairement que ça va marcher en dehors. Mais là, quand il y a des villes d'une province qui est vraiment complètement à l'autre bord, on est vraiment à l'opposé complètement.
Ah, c'est
qui aime notre projet, c'est comment?
C'est c'est vraiment une agréable surprise. Là. C'est complètement fantastique parce que tu te dis, aïe, 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 ça marche là-bas, c'est cool, les gens aiment ça. C'est ce qui me fait dire aussi que ça peut pogner ailleurs aussi. Là, c'est pas juste au Québec que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien, mais il y a plein d'autres endroits où ça peut fonctionner. Puis la musique... c'est un langage universel, là, fait que je veux dire, ça peut être partout. Là.
Et là, d'avoir 3 albums quand on part en tournée, ça aide, j'imagine, il y a un choix.
Oui.
On a accès à plein de chansons.
Oui, ça, c'est le fun. Ça nous permet justement, quand il faut faire des shows un peu plus longs, on peut aller repiger dans l'ancien répertoire. On fait toutes les pièces du nouvel album, donc de Upside Down, puis on refait un peu les meilleurs, les best hits, mettons, de The Season Spell. On fait plus... de pièces du premier album.
Okay, okay, okay.
Ce serait peut-être de quoi réessayer, peut-être pour réarranger.
Ou parce que ça a moins bien vieilli?
Ah, moi, j'étais tannée. Ouais,
okay.
J'étais vraiment tannée. Je me suis dit, souvent, il y a des membres du band qui me disaient, hey, on fait-tu Keep? Je suis comme, non. Bon, ça me tentait comme plus, tu sais. Comme je disais tantôt, je trouve ça vraiment important de se renouveler.
Oui, puis on est ailleurs.
Ben, c'est ça. Puis d'essayer des nouvelles choses, puis même Upside Down, en fait, les pièces d'Upside Down, j'ai commencé à les composer quand on était en train de tourner The Season Spell, t'sais. Puis à la fin de la grosse tournée de The Season Spell, j'avais vraiment envie de dire autre chose, t'sais. J'avais vraiment, vraiment envie de... Tu sais, j'étais pas tannée de faire le show, c'est sûr, mais tu sais, après 80 shows, mettons, t'as hâte de jouer les nouvelles pièces, là, t'sais. Tu connais les pièces, t'en as parlé pendant longtemps, puis dans ta vie aussi, t'es ailleurs. Mmh. C'est drôle parce que je suis déjà en train de composer pour le quatrième album. On n'a même pas commencé à tourner le troisième, puis écoute, j'ai à peu près genre une dizaine de maquettes, là. Fait que je suis tout le temps en train de vouloir dire quelque chose d'autre.
Ça. Mais comme un album, c'est une photo d'une époque.
Ouais.
Ça a été écrit pendant une certaine période. C'est vraiment, on a capturé un moment de cette époque-là.
Mmh.
Quand on les chante 5-6 ans plus tard, on n'est plus là.
Non, c'est sûr.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un décalage.
Je pense que oui. Des fois, ça peut être le fun de replonger là-dedans, justement.
Puis les gens les veulent aussi.
Ben
le
oui,
public qui suit les veulent.
C'est ça, exactement. C'est pas encore arrivé que quelqu'un nous crie pendant un show.
Hey, on va faire cette tune-là.
Faites cette tune-là. Ça serait une drôle de surprise parce que ça fait longtemps qu'on les a pas pratiqués. Fait que j'essaierai de détourner un peu le sujet. Mais non, ça peut être quand même intéressant, je pense, de revenir à des vieux classiques, mettons. Là.
Est-ce que gérer l'horaire de ce band-là, c'est difficile?
on pourrait appeler Marie-Noëlle Bois, notre gérante, pour qu'elle nous en parle un petit peu.
Parce que 8 personnes, c'est 8 vies.
Ouais. 8,
je ne sais pas s'il y en a qui ont des familles, mais c'est
8. Il y en a qui ont des familles. C'est vraiment... c'est compliqué, parce qu'on est beaucoup, mais on réussit toujours à se retrouver, puis essayer de faire fitter ça dans les horaires vraiment... vraiment occupés. Des autres musiciens, écoute, c'est des musiciens qui font pas juste Bellflower non plus. Ils ont beaucoup d'autres bands qui sont quand même assez populaires, donc sont souvent partis. Mais écoute, je pense que j'ai réussi en fait à amener du stock intéressant à jouer. À chaque fois qu'on se retrouve puis qu'on joue, c'est toujours une expérience formidable. Donc, on fait tous pas mal de temps là, pour se retrouver puis de faire avancer les choses. Là.
Et nous, on est chanceux à Sorel-Tracy parce que vous allez venir en show.
Oui.
Le 5 mars,
yes.
À 18h, à la salle Georges Codeling du Marché des Arts des Jardins, dans le cadre des 5 à 7 azimuts.
Non, on a bien hâte.
Donc, ça sera, vu que c'est un show plus court, ça sera essentiellement cet album-là, j'imagine, ça sera Upside Down.
Oui. Oui, tout à fait. À moins qu'il y ait un gros rappel à la fin, là, on pourrait faire des vieilles tunes de The Season Spell, ça pourrait être le fun, ça aussi.
Est-ce que le défi, quand on présente un band, c'est d'accrocher les gens dès les premières chansons pour... on parlait tout à l'heure de l'événement comme britannique où les gens ne vous connaissaient pas, mais c'est un peu ça le défi, là, c'est d'essayer d'aller les chercher, là, surtout dans un événement extérieur comme ça, par exemple.
Ah oui, absolument. Là, mais écoute, c'est un peu... c'est là où on réussit toujours à capter l'intérêt des gens, en fait. Les gens, ils nous disent... les commentaires les plus fréquents après nos spectacles, c'est « Voyons donc, je suis transformée. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été avec vous dans votre trip. Puis c'est là où c'est important pour moi aussi de les inclure puis de le ramener dans notre bulle. Parce que quand on est sur scène, je le répète encore, c'est tellement une expérience formidable. Puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir. On a une très, très belle complicité entre personnes, mais donc aussi musicalement. Puis ça paraît. Puis c'est ça que les gens ils nous disent aussi. Ça paraît que vous avez du plaisir puis vous nous embarquez dans votre trip, t'sais.
Si les gens veulent vous suivre, bien évidemment, il y a Sorel le 5 mars, mais si les gens veulent vous suivre, c'est sur le web qu'on a toutes les dates.
Oui, on a plusieurs dates. Là. Écoute, on retourne à Valmorin, justement. C'était comme un peu ça l'échange. Là, on faisait une résidence, puis on leur offrait un show après. Écoute, il y en a d'autres dates, je ne me souviens pas exactement où, mais sur le site, il y a vraiment ça qui commence à s'afficher.
Êtes-vous sur les réseaux sociaux aussi? J'imagine les gens peuvent vous suivre là-dessus.
On est partout.
Il faut. On n'a pas le choix.
Mais maintenant, on n'a pas le choix. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, si on veut que les gens puissent avoir accès à notre musique, il faut la mettre un petit peu partout. Là. C'est la game qu'on joue. Elle est un petit peu difficile des fois. Mais ouais. Écoute, dans cette ère-ci de la musique, c'est un peu plus difficile. Mais il va peut-être avoir des changements là, éventuellement, on l'espère.
Il faudrait.
Ouais.
Émilie, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ça me fait grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Bye bye.